Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Alors pour bien commencer l'année, rien ne vaut un voyage lointain.
Ah oui.
Oui, aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, nous vous emmenons au pays du bonheur. On part visiter le Bhoutan.
Ah oui.
Et Didier, bah, tu vas nous parler des Bhoutanais.
Tout à fait.
Ça s'appelle comme ça.
Exactement.
Et de l'organisation du tourisme là-bas, qui est un petit peu particulier.
Oui, effectivement, vous allez pouvoir découvrir ça.
Voilà, mais le Bhoutan nous fait quand même un peu rêver. Et rêver, ça fait toujours du bien, Didier.
Ça fait pas de mal, oui.
C'est vrai.
Alors, pour commencer ce rêve, on va déjà comprendre un petit peu le pays. C'est un pays très peu connu en dehors de son nom finalement, hein, et le pays du bonheur national brut. Moi, c'est comme ça que je connaissais sa particularité. Après, pour le reste, j'avoue que je découvre un petit peu. Et on commence donc par parler de sa géographie. On va commencer par la base.
Oui, assez étonnante la géographie.
D'accord,
du Bhoutan.
Okay.
Alors, je vais d'abord commencer par la superficie pour mieux l'imaginer. Alors, le Bhoutan est 14 fois plus petit que la France.
Oui, d'accord.
Grand comme 4 fois la Corse.
D'accord.
Quand même.
Oui.
Mais minuscule par rapport à l'Inde, qui est sa voisine.
Ah bah forcément.
Qui est 80 fois plus grande. Donc voilà, on a quand même une idée de la taille du Bhoutan. 4 fois la Corse.
D'accord.
Alors, c'est un pays himalayen avec un relief spectaculaire, un climat très contrasté et une biodiversité exceptionnelle.
Mmh.
Alors le Bhoutan, c'est un exemple rare d'harmonie entre l'homme et la nature, et sa géographie a façonné non seulement le paysage,
d'accord,
mais aussi la culture et l'identité nationale.
Okay.
Alors le Bhoutan s'appelle officiellement Royaume du Bhoutan, Didier.
Ah, okay.
Oui, oui. Il est enclavé au cœur de la chaîne de l'Himalaya oriental et partage sa frontière avec deux pays, l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest, et avec la Chine au nord, mais par le Tibet.
Ah, par le Tibet.
Je mets un petit mais.
Oui, d'accord, on va pas épiloguer sur le sujet. Donc c'est un pays uniquement très montagneux alors ?
Alors il est essentiellement montagneux, Didier.
Ah, essentiellement.
Oui,
okay.
Essentiellement.
Il y a un mais.
Exactement, il y a encore un mais.
D'accord.
Son relief, c'est l'un des plus accidentés au monde.
Oui.
Mais au sud, il y a des plaines et des collines avec des sols fertiles et des forêts tropicales. Alors, elles ne sont pas immenses, mais oui, c'est subtropical.
Ah ouais, j'aurais jamais cru.
Et on s'en doute, bah, une forte densité de population.
Forcément.
Là où il fait plus doux, bien évidemment.
Bien sûr.
Alors, cette région sud-est est une zone agricole importante aussi, où l'on cultive du riz, du maïs et même de la canne à sucre.
D'accord, en j'avoue fait, mon ignorance totale, je tombe un peu dénu.
C'est tout y pousse au sud du Bhoutan.
Ok.
Alors, mais c'est une petite zone, hein, soyons clairs.
Oui, j'entends bien.
Alors, puis au centre, bah, on monte, hein, bien sûr, avec des chaînes de moyenne montagne, entre 1000 et 3500 mètres, avec des vallées qui commencent à s'encaisser.
Okay.
Et c'est dans cette région que se trouve l'aéroport international, l'un des plus difficiles d'accès au monde, pour atterrir ou pour décoller.
D'accord.
Alors, il y a 4 grands fleuves qui traversent ces vallées, qui sont bien sûr alimentés par les glaciers de l'Himalaya. Et bien évidemment, ça joue un rôle essentiel dans l'agriculture et dans la production d'hydroélectricité, qui est une des richesses du pays.
D'accord.
Voilà. Alors, on arrive ensuite au nord, dans la haute chaîne himalayenne, avec des sommets qui dépassent souvent les 7000 mètres. Voilà ta montagne.
Ah oui, c'est celle que je pensais. Oui.
Mais ce n'est pas que cela.
Oui, je comprends.
Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge.
C'est pas grave. C'est un chat bhoutanais, ça doit être pour ça.
C'est un taquin.
Ouais.
On verra ça
tout
à l'heure. Oui, donc 7000 mètres quand même, ça commence à être très haut.
Ah ben, je confirme.
Et le point culminant du pays est le mont sacré, hein, qui s'appelle Gangkar Puensum, 7570 mètres.
Ouais.
Quand même une belle,
belle
altitude.
Montagne,
voilà. Alors, c'est la plus haute montagne n'ayant jamais été gravie. Donc ça, c'est important de
aussi,
le souligner.
Ça aussi, ça m'a surpris.
Et oui, à cause de l'interdiction de l'alpinisme depuis 2003, pour des raisons religieuses et environnementales.
Ouais, ça m'a bluffé ça aussi.
Et oui.
Nous les hommes qui ne savons pas faire autrement que d'aller fourrer notre nez partout.
Exactement, bah là c'est interdit.
Ça doit être super riche au niveau faune et flore. Et
exactement. Alors avant 2003, avant l'interdiction, il y avait eu des expéditions, mais aucune n'avait réussi.
D'accord.
C'est une montagne très, non seulement elle est très haute, mais très... très escarpé.
Oui, j'imagine.
C'est très resserré.
Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a une si belle montagne qui est épargnée quand on voit ce qu'ils ont fait sur l'Himalaya.
L'Everest et tout ça.
Bon, voilà.
Alors, cette région du Nord, bah, elle est forcément très peu habitée parce qu'elle est recouverte de glaciers et de neiges éternelles.
D'accord. Alors, Corinne, avec un relief aussi tourmenté, on imagine que son climat est aussi donc diversifié puisque...
Tout
tu
à
nous
fait,
en as un petit peu parlé.
Bah, le climat du Bhoutan, il est aussi varié que ses paysages,
voilà,
et que son relief, on peut
dire.
On passe d'un climat subtropical au sud à un climat glaciaire au nord.
Oui.
Donc, quatre fois la Corse. Hein. Donc, c'est on a vite froid.
Ça, c'est surprenant. Ah.
Et donc, c'est dû à l'altitude, bien évidemment.
Bien sûr.
Et au sud, à cause de la mousson, ce sont des étés chauds et humides avec des hivers doux. Il pleut énormément dans cette région, donc on imagine que c'est très vert.
Oui.
Et il pleut énormément entre juin et septembre.
D'accord.
Et il peut y faire 30 degrés.
Ah, mais alors là, je suis bluffé. D'accord.
Voilà. Okay. Alors, dans le centre, c'est un climat tempéré avec des températures encore agréables, avec une concentration de la population dans cette zone. Mais il y pleut aussi beaucoup, donc c'est aussi très vert, on le suppose en tout cas.
J'imagine bien.
Et moins que dans le sud quand même. Et dans les hautes montagnes du nord, bah, le climat est alpin, et voire glaciaire. Et en hiver, les températures peuvent descendre en dessous de moins 15 en hiver, et il y neige beaucoup. Donc quand je dis moins 15, ça peut être moins 20, moins 25.
Oui, j'imagine.
Mais c'est pas non plus la Sibérie.
D'accord, bon, tant mieux.
Voilà.
Alors, on imagine mieux le Bhoutan maintenant. Est-ce qu'on peut dire de la flore... qu'est-ce qu'on peut dire, pardon, de la faune et de la flore? Ça doit être aussi varié, j'imagine, vu ce que tu m'en dessines.
Voilà, tout à fait, Didier, c'est une très bonne déduction. C'est un des... D'abord, il faut retenir que c'est un des pays les plus boisés au monde, le Bhoutan, en proportion.
D'accord,
Et plus de 70% de son territoire est couvert de forêts. C'est quand même énorme.
Vu un petit territoire,
Et cela, le restera, car la constitution bhoutanaise impose que leur surface ne descende jamais en dessous de 60%.
Ah oui, ils sont branchés environnement quand même.
Ah bah complètement. Et on peut, du coup, comme tu le disais, imaginer la diversité. On passe des forêts tropicales au sud avec des bambous, des palmiers, des bananiers, aux forêts alpines, au nord avec des conifères et des prairies, et avec au milieu des forêts tempérées, un petit peu comme on connaît chez nous.
Oui, c'est ça, c'est alpestre.
Mais nombreuses essences d'arbres. Voilà. Ben, en résumé, au Bhoutan, il y a plus de 5500 espèces de plantes, dont 300 plantes médicinales, c'est une de leurs spécialités.
D'accord.
Et il y a aussi de nombreuses fleurs différentes. Alors, ça va de l'orchidée à l'édelweiss, en passant par 46 sortes de rhododendrons.
Ah, tu me fais rêver.
La Bretagne. Ben oui, c'est ça.
C'est ça. D'accord.
C'est un paradis pour les fleurs.
Ok.
Alors, 40% du territoire du Bhoutan est protégé par un vaste réseau de parcs nationaux, de corridors biologiques pour les passages des animaux, et de réserves naturelles. Et cette politique environnementale en fait un modèle mondial en écologie.
Ah ouais.
Voilà. Alors, quelques mots sur la faune, qui dispose bien sûr d'une grande diversité d'habitats. On y trouve des nombreuses espèces, dont des espèces rares ou menacées. Il y a entre autres le tigre du Bengale, le léopard des neiges,
bien aussi, ça.
L'ours noir de l'Himalaya,
d'accord.
Le pandarou, qui est si mignon quand même.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et le taquin. Et ça, je ne connaissais pas cet animal.
Ce que c'est qu'un taquin.
Ça s'écrit T-A-K-I-N pour nos auditeurs. Voilà.
À regarder sur Internet quoi, pour avoir une image.
C'est l'animal national du Bhoutan.
Ah, en plus.
Oui, qui ressemble à une chèvre croisée avec une vache.
Ah, j'ai pas l'image là. D'accord. OK.
Voilà, c'est un peu particulier.
Oui, j'imagine.
Et c'est un animal sacré, symbole de force et de résilience.
OK.
Voilà pour le taquin.
D'accord.
Et c'est aussi le paradis des oiseaux, on s'en doute, avec plus de 700 espèces, dont la grue à cou noir, considérée comme un animal sacré. Et au sud, dans la région tropicale, c'est le paradis des reptiles, Didier, forcément. Des cobras, des pitons, des vipères, sans compter les lézards et les amphibiens.
Il y a du monde. C'est moins bien ça, j'apprécie moins.
Il y a du monde. Voilà. Bon, moi, je vous propose une pause musicale bhoutanaise. On va écouter Niandro.
Ah ok, écoutons donc Niandro alors. Alors, on va écouter un peu Niendro comme d'habitude, parce que le bouton est petit, mais l'émission aussi. Vous êtes toujours avec Asialogie, donc sur Radio Alpa 107.3. Et on va continuer à évoquer le bouton, mais cette fois sur la version plus historique, qui est histoire d'en connaître un peu plus de ce pays.
Oui, oui, c'est important de parler de l'histoire du bouton, d'autant plus qu'elle est très particulière, enfin, comme toutes les histoires de chaque pays, mais quand même.
Mais elle a sa particularité.
Elle a quelque chose qui est peu connu.
Alors allons-y. C'est parti.
Alors c'est d'abord un petit royaume qui est devenu très stable politiquement.
D'accord.
C'est une monarchie constitutionnelle avec une influence bouddhiste importante. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, la religion, si on peut dire, philosophie-religion, a de l'impact sur la politique.
Okay.
Le Bhoutan a été longtemps isolé du reste du monde pour préserver son indépendance, sa culture et son système politique unique au monde.
D'accord.
Alors, les premières traces de peuplement au Bhoutan remontent à plusieurs millénaires, on s'en doute, hein, c'est comme partout Asie. Mais l'histoire commence à s'inscrire véritablement avec l'arrivée du bouddhisme au 7e siècle, depuis le Tibet.
Okay.
Alors c'est précisément le bouddhisme tantrique Vajrayana.
Ouais.
On y reviendra.
D'accord. Hein,
pour expliquer ce que c'est le bouddhisme tantrique.
Ça marche.
C'est le bouddhisme qui est le plus pratiqué aujourd'hui, qui a progressivement constitué ce bouddhisme Vajrayana, le socle culturel et spirituel de la société bhoutanaise.
Ouais.
Alors en parallèle et pendant des siècles, le pays a été divisé en chefferies locales, comme beaucoup de pays, des chefferies religieuses et militaires. Il y avait beaucoup de conflits internes par manque de pouvoir central.
Mmh.
Alors ce n'est qu'au XVIIe siècle, donc ça a mis quand même du
temps,
que le pays va être unifié par Shabdrung Ngawang Namgyal, un chef religieux tibétain qui s'était réfugié au Bhoutan.
Okay.
Voilà, alors Shabdrung mettra en place un double système de gouvernement avec un pouvoir partagé entre une autorité religieuse et une autorité civile.
Ouais.
Donc pouvoir partagé. Mmh. Il fera également construire de nombreux dzongs.
D'accord.
Ou dzong.
Et c'est
dzong,
quoi ?
Peut-être. Ce sont des forteresses monastères.
D'accord.
Et ces forteresses monastères, c'est des centres administratifs, religieux et militaires. Des bâtiments qui sont à la fois des monastères et des bâtiments administratifs.
Mmh.
Alors après sa mort, à la mort de Shabdrung, donc, le pays va connaître une période d'instabilité. Mais en 1907, les chefs religieux et civils du pays vont décider d'instaurer une monarchie héréditaire afin de rétablir la paix.
D'accord.
Et c'est en ça que c'est... Il n'y a aucun pays comme
ça. C'est ça.
Voilà. Et donc, ce sera le premier roi, c'est Ugyen Wangchuck, qui sera donc le premier roi du Bhoutan. Et ce sera le début de la dynastie Wangchuck, celle qui règne encore aujourd'hui.
Ok.
Depuis 1907.
C'est vrai qu'au début du XXe siècle, on nous a plutôt habitués à l'inverse, donc c'est assez étonnant.
Eh bien oui, c'est très étonnant.
D'accord. Et alors, comment a-t-il pu arriver au pouvoir du coup ? Enfin, c'était quoi sa légitimité ? Enfin, pourquoi on l'a nommé lui, quoi ? C'est un peu étonnant.
Bah oui, c'est un peu étonnant. Alors, je vais d'abord en dire quelques mots sur Ugyen Wangchuck, donc le fondateur de la dynastie.
Oui.
Né en 1862 et mort en 1926, il était le chef d'une puissante famille noble et il était reconnu pour ses compétences militaires, son habileté diplomatique, son impartialité et sa pratique du bouddhisme.
Il avait des compétences, quoi, tout simplement.
Voilà, tout à fait. Il apparaissait comme un leader et il a été élu roi héréditaire suite à une assemblée de chefs et de nobles.
D'accord.
Alors son pouvoir a ensuite été institutionnalisé et reconnu par le peuple bhoutanais.
Ouais, ouais.
Et sa désignation marque le début de cette monarchie héréditaire qui est très stable, qui a permis au Bhoutan de préserver son indépendance et sa culture, même face à des puissances étrangères comme l'Inde et la Chine.
Oui, c'est pas des moindres quand même en plus.
Non, c'est pas des moindres.
D'accord. Et du coup, Corinne, à partir de quand démarre sa modernisation? Quelle est sa politique aujourd'hui, en fait? On en est où?
Il va se moderniser quand même assez tardivement, à partir des années 50,
D'accord.
sous le règne du troisième roi, qui s'appelait Jigme Dorji Wangchuk. Et en fait, ce Jigme va abolir le servage.
C'est une bonne idée, oui.
Hein, c'est pas l'esclavage, mais ça veut dire que les paysans appartenaient au seigneur.
Hein,
c'est moyenâgeux, comme
c'est ça, comme dimension.
Chez nous, au Moyen-Âge, pareil. Et créer une administration moderne avec des réformes sociales. Donc ça date de 1950, ça.
C'est pas si vieux.
Le Bhoutan deviendra ensuite membre des Nations Unies en 72, mais va conserver un contrôle strict sur les influences étrangères avec une politique qui limite le tourisme.
Ok.
Alors c'est le quatrième roi Jigme Singwe Wangchuk qui va marquer profondément la politique du pays en introduisant le concept de bonheur national brut.
Alors je le connaissais.
Le BNB dans les années 70.
Ah, alors, 70, c'est si vieux, ça.
Et oui. Et cette idée reposait et repose encore
aujourd'hui.
Je me suis un peu perdue sur le principe, sur le développement.
En fait.
Voilà, c'est ça. Le principe important que le développement d'un pays doit être mesuré non seulement par la richesse économique,
mais aussi
par le bien-être de la population.
C'est ça.
Et tous les gouvernements devraient
s'en soucier un peu plus peut-être et s'en inspirer.
Copier un petit peu, et s'en inspirer, tout à fait.
Okay.
Et les politiques publiques sont depuis influencées par cette vision qui met l'accent sur la protection de l'environnement, la préservation de la culture, l'équité sociale, ce qui n'est pas l'égalité, c'est autre chose,
bien sûr.
Et la bonne gouvernance.
Ah, j'aime bien l'idée.
Voilà. Alors la transition volontaire du Bhoutan vers la démocratie en 2008 est l'un des aspects les plus remarquables de l'histoire politique récente du Bhoutan. Contrairement à de nombreux pays, cette transition a été initiée par le roi lui-même.
Et aujourd'hui,
le roi n'a qu'un rôle symbolique et un pouvoir d'arbitrage, tandis que le pouvoir exécutif est exercé par un gouvernement élu avec un parlement à deux chambres. C'est incroyable, moi, je trouve, cette histoire politique du
tout
pays.
Tout de même, oui, c'est vrai.
Hein? Bon,
C'est un cas à part.
Voilà. Okay. Bon, on va encore écouter. Alors là, c'est un peu du plus rock.
Oui,
hein.
Oui, là, c'est moi qui ai voulu quelque chose d'un peu plus moderne.
Voilà. C'est là une pause musicale bhoutanaise encore.
Ok, c'est ça. C'est parti.
C'était Hope, Espoir, une chanson un petit peu rock.
Ouais, c'est ça. J'ai envie d'autre chose que du très traditionnel.
Voilà, bhoutanaise.
C'est ça, bhoutanaise.
Alors Didier, parle-nous maintenant de la société bhoutanaise.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette société bhoutanaise?
Donc, API original, société originale, bien sûr. Elle est toujours ancré dans les traditions et dans le bouddhisme, comme tu l'as déjà un peu évoqué, avec une conception du développement centrée sur le bien-être collectif. Hein.
Oui.
Après, ce que tu as dit, c'est pas surprenant. Bien qu'il se modernise, le pays conserve une identité forte et culturelle très forte. Le Bhoutan compte environ 800 000 habitants, ce qui en fait un des pays les moins peuplés d'Asie à cause des, comme tu l'as dit, des reliefs montagneux. La population est toujours majoritairement rurale. Alors, Thimphu, la capitale et la ville la plus peuplée, hein, sans doute, du pays, avec 120 000 habitants environ.
C'est une petite capitale.
Oui, bien sûr, mais bon, sur 800 000. Hein,
oui.
La population bhoutanaise est plutôt jeune, avec une espérance de vie en augmentation grâce à l'amélioration des soins de santé et de l'alimentation. 73 ans en moyenne en 2023.
Ouais, c'est pas très élevé quand même.
Oui, oui, la société bhoutanaise est éthiquement diverse, mais culturellement unifiée autour du bouddhisme et de la monarchie, comme tu nous en as parlé.
Alors, quelles sont leurs origines ethniques et quelle langue parlent les Bhoutanais, Didier ?
Alors, il y a trois grands groupes. Les Naglop, qui sont les plus nombreux, ils sont d'origine tibétaine et vivent principalement dans l'ouest du pays. Ils exercent depuis longtemps une forte influence dans la politique et la religion. Leur langue, le Dzongka, Dzongka,
ouais,
est devenue la langue officielle du Bhoutan. Il y a aussi les Chakchops, qui vivent surtout dans l'est du pays. Ils sont d'origine tibéto-birmane et constituent l'un des groupes les plus anciens du Bhoutan. Leur langue et leurs traditions sont un peu différentes de celles des Naglop, mais ils partagent les mêmes croyances religieuses. Ils ont un mode de vie rural assez similaire, en fait.
Tu as dit qu'il y avait trois groupes, Didier. C'est qui le troisième groupe ?
J'y viens. Oui. Le troisième groupe, ce sont les Lhot Champa, qui vivent majoritairement dans le sud du pays depuis la fin du 19e siècle. Ils sont
donc
d'origine népalaise et pratiquent en grande partie l'hindouisme. Ils sont considérés comme des émigrés, attention, et leur histoire est la partie sombre du Bhoutan, parce qu'il y en a une quand même, mais oui.
En effet,
ils ont été massivement expulsés au début des années 1990 sous prétexte d'uniformité, culturelle. Quand même environ 100 000 d'entre eux se sont réfugiés au Népal et ont vécu pendant des années dans des camps avant d'être accueillis dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, au Canada et en Australie. Aujourd'hui, ils sont une minorité à vivre au Bhoutan, avec un statut précaire et souffrent de discrimination. Ils ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière et n'y disposent pas de droit de vote. C'est le point noir quand même, je trouve.
C'est vrai. Et le bonheur n'est pas donc
il
le
est
même
pas pour tout le monde,
pour tout le monde,
c'est ça.
Au Bhoutan. Alors, quel style de vie pour ceux qui sont considérés comme citoyens bhoutanais, Didier ?
Alors, ils ont une vie communautaire avec les villages qui jouent un rôle central dans la vie sociale, avec des systèmes d'entraide et de coopération, notamment pour des travaux agricoles. La notion de famille est très importante, avec une particularité dans certaines régions rurales où il y a encore des formes de propriété matrilinéaire.
Oui, ça c'est original.
Oui, où les terres sont donc transmises à la fille aînée.
Ça existe quand même. Hein,
oui, oui. Une autre particularité, le port du costume traditionnel est obligatoire dans les administrations et les écoles. Quant au niveau de vie, il est encore peu élevé, mais plus de 95% de la population a accès à l'eau courante et à l'électricité tout de même.
Oui.
Le taux de scolarisation en primaire est de 96%, avec un accès gratuit à l'éducation. C'est quand même notable,
ça. Oui,
il y a des bonnes choses.
Oui.
Alors, le chômage n'est que de 2%, mais il concerne 10% des jeunes tout de même. Comme ressources, ils ont l'agriculture, la production d'hydroélectricité, comme tu l'as dit, exporté vers l'Inde, et le tourisme toujours strictement contrôlé et grand pourvoyeur d'emploi.
Alors oui, parle-nous du tourisme, parce que ça nous donne envie d'y aller quand même.
Un peu, oui.
En quoi il est contrôlé, le tourisme au Bhoutan ?
Alors, c'est un tourisme sélectif, Corinne. Son modèle est fondé sur la qualité plutôt que sur la quantité et repose sur le principe clé, résumé par la formule, entre parenthèses, haute valeur, faible impact.
Oui.
Alors, l'objectif, il est d'accueillir un nombre limité de visiteurs tout en générant des revenus suffisants pour le développement du pays. En gros, il faut avoir les moyens pour visiter le Bhoutan.
Oui, pas beaucoup de touristes, mais qui ont du revenu.
Des sous. Alors, je t'explique. Il faut bien sûr un visa et réserver un circuit organisé pour être obligatoirement accompagné par un guide agréé. Il faut aussi payer une taxe de $100 et dépenser un forfait journalier minimum de $250 par personne pour l'hébergement, les repas, le transport, le guide officiel, soit $350 par jour et par personne.
C'est,
tout de même.
Ça fait quand même cher, oui.
C'est un petit peu cher. Et cette somme, qu'une part importante est ensuite reversée à l'État. C'est la contribution des touristes au développement durable, au financement de l'éducation, à la santé, aux infrastructures et à la protection de l'environnement. Alors moi, je dis pourquoi pas. Concernant le billet d'avion, il faut compter environ 2000 euros au départ de Paris. Donc, je te fais un petit total approximatif, mais pour 10 jours, il faut environ compter 5000 euros par personne. Donc, je comprends.
Sans l'argent de poche.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est quand même très cher.
C'est vrai.
Mais bon.
C'est voilà. Un choix, hein, pourquoi pas.
C'est un choix politique.
Et on sait qu'on contribue aussi au pays, à son environnement, tout ça. Bon, voilà, c'est une politique qui est entendable. Alors, il y a trois formes.
Oui, qu'est-ce qu'on fait là-bas, Didier,
Il y a trois
tourisme.
Formes de tourisme, puisque tu peux le varier. Alors d'abord, le tourisme culturel, le plus répandu avec la visite des dzong, comme tu disais, les forteresses monastères, la visite des villages traditionnels et assister à des festivals religieux. Le tourisme de nature qui attire les randonneurs, on imagine bien, vu ce que tu nous as présenté, et les passionnés de montagne, de trek. Il y a aussi donc le tourisme spirituel et de bien-être pratiqué dans des monastères qui proposent des retraites et des séjours dans des centres de médecine traditionnels qui offrent des soins à la base de plantes et de techniques ancestrales. Ce modèle de tourisme contrôlé permet de redistribuer des bénéfices à l'ensemble de la société.
Ça, c'est bien.
Ouais, y compris les zones rurales. Alors, j'allais oublier quand même, la consommation d'alcool est très réglementée et il est interdit de fumer partout là-bas. Eh oui.
Bon, bah merci Didier.
Asie,
c'est fini les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook.
Oui.
Nous réécouter samedi matin 9h30 et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain.
Oui.
Ah, j'ai oublié quelque chose d'important.
Oui, tu voulais parler du Geek Life Festival.
Qui a lieu le 17 et le 18 janvier au Centre des Expositions.
Oui.
C'est à ne pas manquer.
Oh, je pense que nos auditeurs doivent apprécier et puis la culture pop là-bas va faire grand bruit.
C'est vraiment très sympa. Il y a plein de choses à faire et
c'est
à
local,
voir.
C'est peut-être à faire, effectivement.
Voilà. Bon rendez-vous la semaine prochaine.
À bientôt.
Salut, prenez soin de vous. Yeah.